Vous écoutez RFI, minuit et demi ici à Paris, 23h30 à Kinshasa et à Yaoundé, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
Bonsoir à tous, à la une de cette édition, le Gabon avec de profondes réformes politiques recommandées à Libreville aux grandes assises du dialogue national. Plus de 600 participants se sont rassemblés pour valider les travaux finaux. Nous verrons quelles sont les premières réactions sur place avec notre correspondant Yves-Laurent Goma. Dans l'actualité également, le Togo et la fin de la campagne électorale pour les législatives et régionales qui a coïncidé aujourd'hui avec la fête de l'indépendance. Une fête dans un contexte politique tendue. Enfin, le sport, le football et la reprise enfin du championnat féminin en Guinée. Il était à l'arrêt depuis 2 saisons. Le dialogue national au Gabon touche à sa fin. Ces grandes assises organisées par les autorités après le coup d'État du 30 août avaient pour but de proposer toute une série de réformes en profondeur. Et les plus de 650 participants se sont rassemblés à Libreville aujourd'hui pour valider les rapports finaux. 2 recommandations font couler beaucoup d'encre. Il s'agit de l'instauration d'un régime présidentiel et de la suspension de tous les partis politiques. L'ancien parti au pouvoir PDG est particulièrement visé puisqu'il est demandé de rendre inéligibles tous ses cadres pendant 3 ans. À Libreville, Yves-Laurent Goma.
Le docteur Franck Bernard Mvé a participé au dialogue. Il approuve la proposition d'instaurer un régime présidentiel au Gabon.
Il faut que le président soit le chef de tout le pays parce qu'au moins le président sera sanctionné lui-même. Il ne pourra plus accuser le premier ministre d'avoir pas mis en place sa politique.
Dans les couloirs, ils sont nombreux les participants qui craignent que le régime présidentiel instaure une dictature dans le pays. Béatrice Mawanga, qui a représenté les femmes handicapées, n'y croit pas.
Je pense que le régime présidentiel est le meilleur.
Ça ne va pas créer un dictateur ?
Non, pas du tout. Les pouvoirs seront strictement séparés.
Joachim Bachipambo, président du Forum pour la défense de la République, se dit estomaqué par la proposition de suspension des partis politiques.
C'est une proposition inique. Il n'est pas normal que l'on puisse suspendre les partis politiques. Je ne vois pas les autorités du CTRI la traduire en acte, sinon ce serait une régression de l'expression démocratique.
Tous ne partagent pas son point de vue.
Au Gabon, nous avons 101 partis. Ce n'est pas possible.
Il faut réorganiser les choses.
Le dialogue national n'est pas souverain. Il appartient aux autorités de transformer toutes les propositions en loi ou textes réglementaires afin de les mettre en application, a indiqué le président de la commission politique. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Alors précisons qu'il ne s'agit pour l'instant que de recommandations. Le rapport final sera remis mardi au chef de l'État gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema et charge aux autorités ensuite de les mettre en application. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition réagit au rapport de Human Rights Watch qui cette semaine a mis en cause l'armée dans le massacre de 223 civils dans 2 villages le 24 février dernier. Son porte-parole, Jean-Emmanuel Ouédraogo, fait part de la stupéfaction des autorités. Il rejette et condamne fermement des accusations selon lui infondées. Il affirme qu'une enquête judiciaire sur ces tueries a été ouverte. Parler de ce rapport a valu à nos confrères de la BBC et de Voice of America d'être suspendus pour 2 semaines au Burkina Faso. Au Bénin, les syndicats avaient appelé à manifester à Cotonou contre le coût de la vie. Le rassemblement interdit, selon les autorités, a été dispersé par la police à coups de grenades lacrymogènes. RFI apprend que les 29 personnes arrêtées, dont 3 secrétaires généraux de confédérations syndicales, ont été finalement libérées ce soir par la police après leur audition. C'était une double actualité au Togo ce samedi. La fête nationale en ce jour des 64 ans de l'indépendance du pays et la fin de la campagne électorale pour les législatives et les régionales. La fête de l'indépendance avait commencé la veille avec le ravivage de la flamme de l'indépendance par le président Fornia Singbe, entouré des dignitaires de son régime. Mais une fête en demi-teinte dans un contexte politique tendu. À Lomé, Peter Sassou Dogbé.
Une commémoration sobre, pas de discours du président de la République à la nation. La journée a été marquée par le défilé militaire à la place des fêtes de Lomé 2. Ce samedi était le dernier jour de campagne électorale pour les législatives et les régionales. Toute la journée, sur les grandes artères de la capitale, ont retenti des coups de klaxon de moto, de longues files de véhicules en caravane, concerts et de grandes réunions politiques ont été organisées à divers endroits de la capitale et à travers le pays. L'Union pour la République au pouvoir tient son dernier meeting au stade du lycée d'Aguanivé et à la plage. L'Alliance nationale pour le changement fait le sien au stade de Beniglato. Les forces démocratiques pour la République prennent siège à Tikoumé. La dynamique pour la majorité du peuple campe à Baguida. Les candidats tentent encore de convaincre les derniers indécis. Du côté du pouvoir, on défend la réforme constitutionnelle qui supprime le suffrage universel pour la présidentielle. Cela va renforcer la démocratie et garantir la séparation des pouvoirs, explique Koumeyalo Anaté, député Unir, alors que du côté de l'opposition, on dénonce un coup d'État constitutionnel et l'on appelle à une forte mobilisation pour faire échouer ce projet qualifié de dangereux par Brigitte Kafuya-Djamabo-Johnson. Peter Sassou Dogbelomé, RFI.
Le Soudan du général Al-Bourhan réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour examiner ce que la lettre de son ambassadeur aux Nations Unies qualifie d'agression des Émirats Arabes Unis contre le peuple soudanais. Les forces armées soudanaises accusent Abu Dhabi de soutenir les paramilitaires du général Daglo contre lesquels elles se battent depuis un an. Cette réunion d'urgence est réclamée alors que la ville d'El Fasher, capitale de la province du Nord Darfour, est encerclée par les paramilitaires. Dans l'actualité également, la Côte d'Ivoire avec tout autre chose, les demi-finales du concours Mon Premier Montreux Afrique se sont achevées ce samedi à Abidjan pendant 3 soirées. Plusieurs jeunes humoristes de la scène africaine ont pu démontrer leur talent et notre correspondante Binta Diagne était dans le public.
Quand ton téléphone est sur le point de tomber, tu dis oh Seigneur.
Mister Jeff se lance dans un tableau ironique de la société ivoirienne rongée par les technologies. Il décrit son entourage totalement dépendant des téléphones portables. Ce jeune de Yopougon est autodidacte. Il a démarré par de petites vidéos sur YouTube pour finir par faire des stand-up sur scène.
Il y a plus d'un an de cela, j'ai perdu mon petit frère et littéralement c'est dans mes bras qu'il est parti. L'humour pour moi c'est maintenant le moyen de pouvoir extérioriser mes émotions. Parce que je me définis actuellement plus comme un clown triste, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Mais le fait de voir les autres sourire lui permet d'être heureux.
Idéa Lorchel a 27 ans, cette jeune vient de Brazzaville. Elle exerçait comme transitaire et a décidé depuis 2 ans de changer de voie. Pour elle, l'humour est avant tout un engagement.
L'un des sujets qui me tient beaucoup à cœur, au-delà de tout, c'est la délinquance juvénile. On essaie un peu de le dire subtilement pour que les gens comprennent qu'il n'y a qu'une seule vie.
Ce concours cible les jeunes artistes. Il n'y a pas de thème imposé. Ce qui compte, c'est notamment la capacité de chaque artiste à adapter son discours. Bappa Omar, membre du jury.
C'est-à-dire que celui qui a la capacité de s'adapter au public en face, mais surtout de porter un message pour un autre public qui n'est pas forcément ivoirien, camerounais ou français. C'est lui qui a donc la capacité de parler au monde.
Lauréat de la première édition de ce concours il y a 2 ans, Bappa Omar le sait bien, cette scène est un véritable tremplin pour démarrer une carrière. Binta Diagne, Abidjan.
Le football et la reprise du championnat de féminin en Guinée. Le Oroya, champion sortant, a ouvert le bal hier soir face à l'OS Bolonta. Reportage Tiernoya Diallo.
C'est au rythme des tam-tam que l'Oroya a lancé la défense de son titre face à une des valeurs sûres du football féminin en Guinée, l'AS Bolonta. Et dans ce match spectaculaire, c'est bien Bolonta qui l'emporte sur le score de 2-1. C'est Koumar Traoré est un coach comblé.
C'était l'objectif qu'on s'était fixé. Tout faire pour gagner la première sortie, chose qui est faite, je pense qu'on ne peut qu'être satisfait et nous pensons que cela va continuer pour nous.
Mais pour Yvonne Marat, attaquante vedette des Rouges et Blancs, l'essentiel était bien ailleurs. Après une année blanche en 2023, elle et son club Oroya vont goûter au plaisir de retaper à nouveau dans un ballon.
Comme on a commencé par le championnat, on prie Dieu qu'on organise encore la Coupe nationale série d'âme. Ça va nous permettre encore d'être en jambes. Sinon, on a des choses talentueuses. Il y a beaucoup de talent en Guinée.
Du talent, une meilleure organisation et surtout beaucoup d'ambition. Fatoumata Binta Bereti est présidente de la Ligue guinéenne de football féminin.
On a beaucoup d'objectifs pour le championnat féminin. le championnat déjà va se jouer cette année, qu'on a créé l'Abbé et Kindia. Et l'année prochaine, on est en train de préparer pour qu'il y ait un championnat intégral.
10 clubs en Ligue 1 et 10 autres en Ligue 2 vont s'affronter durant 4 mois pour une saison expérimentale avant de lancer les grandes manœuvres pour la saison 2024-2025. Kieron Diallo, Conakry, RFI.
RFI, minuit 40 ici à Paris. Bonne soirée à vous.